Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous parle de toute l'actualité du jeu vidéo, on suit absolument tout ce qui se passe dans le monde entier et on vous fait un résumé simple à ingurgiter et en plus a priori distrayant, enfin en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, donc vous êtes là au rendez-vous toutes les deux semaines, c'est le bonheur pour vous, c'est le bonheur pour nous, tout le monde est heureux et c'est fantastique. D'autant plus qu'aujourd'hui, je reçois pour la première fois un invité de marque que je suis fier d'accueillir parce que j'ai beaucoup d'admiration pour lui, à savoir Monsieur Chiffre et Monsieur Donné du jeu vidéo en France, c'est-à-dire Oscar Lemaire. Comment vas-tu, Oscar ?
Ça va très bien, enchanté.
Tu es quelqu'un que je suis de plus ou moins près et plus ou moins loin depuis longtemps parce que c'est vrai que t'écris pas mal dans différentes publications, notamment Game Cult, c'est pas un secret, c'est un site que j'aime beaucoup. Et t'as ta petite chronique mensuelle maintenant des comptes de Monsieur Le Maire. Et donc en fait, toi, c'est vraiment ta spécialité, le chiffre, la donnée, le chiffre froid et objectif, c'est ça ?
C'est ça, oui, oui. C'est un peu une seconde passion en marge du jeu vidéo.
D'accord. Donc, curiosité, on va parler de plein de choses hein, aujourd'hui. On se réveille, on enregistre ça lundi matin, on se réveille et il y a des news sur Nintendo qui nomme un président, sur Webedia qui rachète Mixicom, vous allez voir, c'est quand même important pour le paysage du jeu vidéo français. Il y a aussi des news sur Deus Ex, l'Apple TV dont on va parler, parce qu'on parle de toutes les formes de jeux. Je vais donner mes impressions sur Metal Gear Solid, sur Mad Max, sur Mario Maker, enfin plein de trucs. Mais juste avant ça, comment tu fais pour suivre tous ces chiffres en fait ? Tu as des sources spéciales ? Enfin, je sais pas, sans révéler de secrets, mais...
J'ai plein de sources. Je dirais que s'il fallait en citer qu'une, il y a NeoGAF qui est un très bon endroit pour centraliser un peu pas mal de sources à ce sujet-là.
D'accord.
Il y a une assez bonne communauté d'amateurs de chiffres sur GAF, donc c'est un point, enfin
c'est un point central d'information.
C'est un peu un point central d'information au niveau des chiffres, c'est NeoGAF. Okay. Même si c'est pas la vraie source, quoi. C'est plutôt un truc qui, enfin on connaît GAF, quoi. C'est un endroit où on peut récupérer plein d'infos. Qui viennent un peu partout, quoi.
Ouais, c'est vrai que NeoGAF, c'est un petit peu comme Gamasutra, c'est les sites qui sont pas forcément hyper connus du grand public, mais c'est les endroits où tous les journalistes se retrouvent et où toutes les informations sortent en premier, quoi.
Donc, ouais, enfin c'est pour ça que je trouve ça intéressant, GAF, c'est parce que t'as vraiment plein de communautés dans la communauté, en fait. Et t'as vraiment une communauté d'amateurs de chiffres dans la communauté de GAF, quoi.
D'accord. Bon, bah écoute, voilà, maintenant que tu nous as révélé tous tes secrets, on peut continuer avec les news de l'émission. On vous disait qu'il y a eu des news qui sont tombées avec le matin, quand on s'est réveillé, c'était une matinée un petit peu, comment dire, panique. La première, c'est que Nintendo a un nouveau président. Alors, on sait que depuis la mort de Satoru Iwata il y a à peu près 2 mois, on n'avait pas de nouvelles de la présidence de Nintendo. On savait que Miyamoto a priori n'était pas vraiment chaud pour devenir président, c'est qu'il était plutôt en train de se retirer des responsabilités de Nintendo, mais disons qu'il voulait pas passer sa vie à bosser au bureau. Visiblement, il voulait pas ce genre de choix de carrière pour lui. J'ai vu que t'as pas mal tweeté sur le nouveau président Tatsumi Kimishima. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur lui ?
Oui, bah c'est vraiment quelqu'un à ranger dans la catégorie des financiers. C'est un ancien banquier, donc on n'est pas du tout sur la même ligne que Iwata, qui venait vraiment du développement. Maintenant, je pense que ce que je trouve intéressant, c'est surtout son âge, puisqu'il est assez âgé. Il a 65 ans, si je dis pas de bêtises. Ce qui veut dire que c'est, enfin voilà, Iwata, quand il avait été nommé président, il avait pas encore 50 ans. Donc c'est vraiment un choix qui se porte pas sur le long terme, quoi. Ça m'étonnerait pas qu'il soit là juste pour une dizaine d'années et même peut-être moins. Donc je pense qu'il est là vraiment juste pour continuer la politique initiée par Iwata ces dernières années pour mener à bien tous ces projets qu'il a lancés ces dernières années. Et je pense que ouais, d'ici une dizaine d'années, on aura encore un nouveau président.
Ouais, peut-être même avant. C'est vrai que ça, 65 ans, c'est pas bon. Il bosse tard au Japon, mais
Il bosse tard au Japon, ouais. Mais c'est vrai que Nintendo, enfin, c'est la première fois que Nintendo a un patron aussi âgé, quoi. C'est d'habitude quand il nomme un président, c'est vraiment avec l'idée. Enfin, voilà, je pense que Iwata, quand Yamauchi l'a nommé président, il avait dans l'idée que Iwata serait là pour les 30 années à venir, quoi. Et enfin voilà, il y a vraiment que son cancer qui a pu l'empêcher de faire ça, parce que il était parti pour durer à la base.
Ouais.
Donc ouais, je pense que c'est plus une décision à moyen terme, on va dire.
C'est vrai que c'est la note qui m'a semblé la plus, enfin la remarque qui m'a semblé la plus intéressante dans tout ce que j'ai vu, c'est quand tu faisais remarquer qu'il avait déjà entre guillemets 65 ans. Ils ont pas, ce qui est clair, c'est qu'ils ont pas choisi un type qui en avait 45. Donc
voilà.
Ça veut dire quelque chose aussi. À noter quand même que c'est un financier, c'est certain, mais en même temps, il a aussi travaillé, il est passé par la Pokémon Company, il a été président de Nintendo of America, donc il est dans l'univers du jeu vidéo depuis longtemps. C'est pas non plus un type qui a été parachuté en sortant de nulle part. Enfin, il est dans l'univers du jeu vidéo, il est dans la société et dans l'entourage de Nintendo depuis longtemps. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine légitimité au sein de la société. C'est pas non plus un parachuté.
Ah oui, clairement, c'était le numéro 3 dans l'organigramme de Nintendo, enfin numéro 4 quand Iwata était encore là, c'est-à-dire que il y avait Takeda et Miyamoto, donc ceux qui ont assuré la présidence en intérim, et juste derrière eux, il y avait lui. Et donc je dirais qu'en fait c'est un choix très très logique pour une société normale. C'est plus inattendu dans le cas de Nintendo, parce que moi je pensais vraiment qu'ils allaient quand même rester sur la ligne de nommer quelqu'un qui venait plutôt du développement, mais dans le cadre d'une société normale, c'est très logique, quoi.
Ouais. Et puis il faut pas oublier qu'Yamauchi n'était pas un développeur non plus, le président
Oui.
historique. Donc il y a pas de raison que ça veuille dire. J'imagine qu'il y a des gens qui vont se dire oula, un financier, ça va être dangereux. D'une part, c'est pas le premier qui n'était pas. Enfin, Iwata était le premier vraiment issu de cet univers qui était à la tête de Nintendo. Et puis, en plus, comme tu le rappelais avec raison, il y a la ligne d'Iwata qui a été écrite visiblement sur en tout cas sur le court terme, et peut-être sur le moyen terme. Donc, il y va pas les yeux fermés non plus.
Oui, voilà. Et puis c'est vraiment quelqu'un qui est monté dans la société. Enfin, c'est Iwata qui l'a nommé président de Nintendo of America. Donc on peut penser que c'est un fidèle d'Iwata dans l'idéologie.
C'est ça. Il y a aussi une réorganisation au sein des studios de développement. Ça, j'ai un petit peu moins suivi, mais tu disais que Miyamoto, du coup, maintenant, il est plus président. C'était l'EAD qui est l'un des studios qu'il supervisait. Maintenant, il est Design Fellow, c'est son titre. Donc,
Alors,
en fait,
Creative Fellow.
Ah, d'accord, Creative Fellow, ok. Donc, c'est le chef c'est le chef chief officer créatif de toute la boîte, quoi.
C'est voilà.
Ce qu'il était déjà plus ou moins, mais bon.
Ce qui, alors, c'est un peu flou encore. En fait, il y a Takeda et Miyamoto qui deviennent respectivement Technology Fellow et Creative Fellow. Et oui, finalement, ça correspond un peu au poste qu'ils avaient déjà, c'est-à-dire Takeda, c'est le mec qui est en charge des consoles, de la production de consoles, et Miyamoto en charge de la production de jeux chez Nintendo. Donc, on reste un peu dans l'idée, mais c'est encore très flou. Est-ce que du coup Miyamoto perd son poste de grand patron du studio EAD, qui est le studio le plus important de Nintendo? C'est eux qui font les Mario, les Zelda, les Mario Kart, les Animal Crossing, tout ça.
Qu'est-ce que ça veut dire EAD d'ailleurs? Je sais même.
Entertainment Analysis and Development.
D'accord.
Mon anglais est pas terrible, je suis désolé. Mais ouais, voilà, c'est vraiment le plus gros studio de Nintendo. C'est plus de 1000 développeurs. C'est en général, quand on parle d'un jeu développé par Nintendo et pas seulement édité par Nintendo, en général, c'est un jeu EAD.
D'accord. Bon. Bah écoute, très bien. Je pense que ça nous fait un petit tour d'horizon de cette news qui est pas non plus une news invraisemblable, mais c'est évidemment important pour l'avenir de Nintendo. Y a rien d'autre à dire sur ça spécifiquement, je crois. Vas-y, n'hésite pas.
Non, mais en fait, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est l'évolution de Shinya Takahashi ses nouvelles fonctions. C'est-à-dire qu'il est nommé en tant que président de la branche EPD, Entertainment Planning and Development, qui est une branche dont on n'avait jamais entendu parler jusque-là, et qui semblerait, enfin, quand on regarde le nom de cette branche, ce serait pas impossible que ce soit la fusion de la division EAD, donc le studio de développement dont on parlait, et de la division SPD, qui est le deuxième important studio de développement interne, qui c'est eux qui ont fait les WarioWare, les Rhythm Paradise, Tomodachi Life, et avant ça, c'est eux qui faisaient les Metroid et tout. Donc il est possible qu'ils aient fusionné les deux principaux studios internes de Nintendo et que ce soit Takahashi le nouveau patron. Donc c'est cet aspect-là qui est intéressant, sachant que Takahashi, lui, c'était le boss de SPD depuis 2013.
Ouais, donc ça serait... En fait, tout le monde prend un grade, finalement. D'une certaine manière, j'ai l'impression que Miyamoto supervise absolument tout ce qui est créatif, Takeda, tout ce qui est technique. En fait, ils gardent plus ou moins leur position actuelle. Il y a Kimishima qui est au-dessus, qui est le président, qui vérifie que tout se passe bien. Mais dans l'exécutif, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on a l'impression que Miyamoto continue à faire ce qu'il veut faire, ce qui est à dire le créatif, et qui va pas s'emmerder avec tout le management de la boîte dans son ensemble, et qu'on a quelqu'un effectivement pour gérer les studios peut-être.
C'est-à-dire que il y a un truc qu'il faut bien comprendre avec Miyamoto, et c'est pour ça que c'était assez peu crédible qu'il puisse devenir président, c'est que en tant que développeur, c'est un peu le mec qui a le job le plus idéal dans toute l'industrie du jeu vidéo.
Ouais, c'est sûr.
Parce que c'est en gros c'est le boss des jeux chez Nintendo, c'est lui qui est décisionnaire sur alors il y a quand même quelqu'un au-dessus de lui, évidemment il y a le président, mais sur les jeux vidéo, c'est quand même lui le principal décisionnaire, et c'est lui qui a le loisir de pouvoir, s'il a envie, s'impliquer plus dans tel ou tel autre jeu, mais vraiment comme il le souhaite. Donc, enfin voilà, quand t'es développeur, c'est vraiment le boulot de rêve, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y avait pas de raison je pense, enfin voilà, c'est pas quelqu'un qui pense à l'argent, qui pense à l'ambition. Je pense qu'il a juste envie de faire ce qu'il avait envie de faire, et pour ça, son poste actuel est parfait, quoi.
Ouais, exactement. Bon, on avait quand même une petite conférence de la Pokémon Company, puisqu'on parle de Nintendo, avec une annonce d'un Pokémon Go qui arriverait sur Android et iOS en 2016, et qui n'est pas un des jeux qui compte pour les jeux que Nintendo développe en partenariat avec DNA sur mobile. Mais par contre, c'est un jeu qui est fait en partenariat avec des gens de Google. Donc c'est un équivalent, pour ceux qui connaissent, du jeu Ingress, en quelque sorte, mais pour Pokémon. C'est-à-dire qu'on va se balader dans la vie, dans la vraie ville, dans les partout où on va, et on va pouvoir trouver des Pokémon avec notre téléphone dans nos environnements, quoi. On se balade dans la rue et puis on arrive près de l'Arc de Triomphe à Paris, par exemple, et puis on voit il y a notre téléphone qui vibre et ça nous dit il y a un Pokémon pas loin, on pointe le truc et on le capture. Il y a même un petit accessoire qu'on peut accrocher à la ceinture, le Pokémon Snap, je crois que ça s'appelle. Je sais plus, c'est un petit truc qui vibre pour pas qu'on ait besoin de rester son nez dans le téléphone du matin au soir pour les trouver, quoi. C'est bien ça, hein.
Ouais, voilà, exactement, ouais.
Bon, c'est pourquoi pas finalement, c'est une approche originale. Est-ce qu'on va passer son temps à aller partout dans toute la ville pour essayer de trouver des Pokémon? Peut-être qu'il y a des gens qui le feront.
Oui, non, moi pas trop. Je suis pas trop client de jeux sur smartphone de toute façon. Faut savoir que j'ai un iPhone 3, donc j'ai pas trop de possibilités.
Oh là là, mon pauvre, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il te paye pas chez Gamekult? Qu'est-ce que c'est que on peut aller parler à Thomas, si tu veux?
je suis vraiment pas branché smartphone, donc c'est pour ça, ça c'est cette nouvelle me passe un peu au-dessus. Enfin après, côté business, c'est intéressant, mais c'est très difficile de savoir si ça va marcher ou pas. Donc je sais pas, j'ai pas trop d'avis à ce sujet-là.
Ouais, c'est vrai que les jeux vidéo sur mobile, généralement, c'est des trucs un petit peu, alors généralement, hein, y a plein de catégories différentes, mais c'est plutôt des trucs pour les joueurs qu'on appelle casual, que moi je définis comme les joueurs qui jouent quand ils ont du temps et pas les joueurs qui se créent du temps pour jouer, qui se mettent du temps à côté pour jouer.
Ouais, qui jouent pour passer le temps, en fait, quoi.
C'est ça. Et du coup, ça a l'air de s'adresser un petit peu plus à des joueurs qui... Mais en même temps, il y a plein de jeunes qui sont... On connaît le succès des jeux comme Yo-Kai Watch au Japon notamment. Il y a plein de gens qui sont très jeunes et qui ont des téléphones et qui peut-être, eux, pourraient passer leur temps et aller chercher leur Pokémon ici et là avec leur...
Ouais, de toute façon, je pense que ça s'adresse surtout aux enfants. Et en fait, c'est surtout, je pense, au Japon que ça peut marcher, parce que pour moi, c'est un peu le truc important dans cette histoire, c'est que ça, tu risques quand même d'être facilement ridicule en utilisant cette application, quoi. Et au Japon, je pense que ça pose aucun problème, parce que typiquement, le Japon, c'est vraiment un pays où
le ridicule ne tue pas. C'est pas
voilà,
pour.
Exactement. mais en Occident, je pense que ce sera un peu plus difficile. Alors après, peut-être que pour les enfants, ça posera pas de problème quand même. Hein, mais je vois mal des adultes essayer d'attraper des Pokémon avec leur smartphone en plein dans le métro ou dans la rue, quoi.
Peut-être. Ouais. L'autre grosse news de ce matin, c'est le rachat de Mixicom par Webedia. Alors, c'est news un peu business, mais c'est quand même hyper important pour le paysage audiovisuel jeu vidéo ludique français. Le page... Voilà. Webedia, c'est une société qui s'est mise à racheter énormément de propriétés du monde du jeu vidéo en France, de propriétés web, hein, comme son nom l'indique. Depuis 2 ans, on va dire, ils ont racheté jeuxvideo.com, ils ont racheté, ils ont recréé IGN France, ils ont racheté Millennium, enfin, ils ont tout un tas de boîtes. Et là, ils viennent de racheter Mixicom. Et Mixicom, vous n'avez peut-être jamais entendu parler du nom, mais c'est la boîte qui représente et possède les plus grands YouTubers de France, pas tous, mais enfin principalement Norman, Cyprien et Squeezie, ce qui inclut aussi la chaîne Cyprien Gaming. Donc c'est une énorme force, qu'on le veuille ou non, dans la communication du jeu vidéo, et ça amène dans le giron de Webedia une autre corde à leur arc, parce qu'ils avaient le web, les sites web un petit peu, jeux vidéo, on va dire, grand public sous la forme de jeuxvideo.com. Ils ont IGN, qui est un petit peu une traduction agrémentée de IGN US, qui s'adresse un petit peu plus ciblée. Ils ont Millennium, qui est évidemment e-sport, etc. Maintenant, ils ont YouTube, les YouTubers, qui sont eux, bien sûr, qui parlent à un public très jeune, et qui font énormément de vues et qui ont une grosse influence. On parle des influenceurs et je pourrais en parler un petit peu plus. Mais c'est une news hyper importante, non, pour le monde du jeu vidéo en France, Oscar?
Je pense pas tant que ça, parce que...
T'arrêtes de me casser la baraque, dis que c'est important et voilà, quoi, merde.
Non, mais c'est-à-dire que je pense pas que ça va changer énormément de choses. Je trouve ça très logique. Parce que effectivement c'est un truc qui marche énormément, et puis Webedia maintenant, avec tous les rachats qu'ils ont fait, ils sont bien placés pour ils sont déjà bien implantés dans le monde du jeu vidéo, donc c'est assez logique qu'ils fassent ça, mais comme ils ont insisté sur le fait que on verrait pas Cyprien et compagnie sur jeuxvideo.com, ce qui en même temps est assez logique, parce que Cyprien il a pas besoin de jeuxvideo.com pour cartonner sur YouTube.
Oui, et puis en plus, je crois que le public de jeuxvideo.com, qui est particulier, serait pas content non plus de voir les YouTubers débarquer sur jeuxvideo.com. C'est des profils particuliers. Ils s'apprécient pas forcément. Les publics de l'un n'apprécient pas forcément les autres. Donc, je crois qu'effectivement, il y aurait aucun intérêt. Et puis, c'est pas,
bah, c'est pas ce
type de montage, quoi. C'est ils rachètent dans ces, dans cette industrie parce qu'ils pensent que c'est des produits, des propriétés, porteuses. Mais c'est pas, le but n'est pas de faire, de mélanger tout. Sinon, ça sert à rien. Au contraire, c'est, ils ont dans tous les segments de cette industrie.
Mais en fait, oui, hein, pour réabonder un peu plus dans ton sens, c'est important dans le sens où bah, c'est Webedia qui continue de grossir et qui continue de devenir une boîte qui commence à avoir une sorte de monopole sur tout ce qui est en rapport avec le jeu vidéo. Mais vraiment, pour Cyprien, je pense que ça va pas changer grand-chose, quoi.
Ouais.
Après, ce qui est important dans cette histoire, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ça va peut-être mettre en valeur le fait que bah, des gens comme Cyprien ne sont pas des indépendants et que toutes les vidéos, enfin quasiment toutes les vidéos de Cyprien Gaming, faut savoir que les éditeurs payent pour ces vidéos. Et peut-être que ça va mettre un peu plus en lumière ça, parce que je pense que l'écrasante majorité du public de Cyprien Gaming n'est pas au courant de ça.
Bah c'est un énorme problème, ça, effectivement, et c'est un problème que j'évoque ici et là, mais entre parenthèses, pour être complètement transparent, toi, tu m'as précisé que tu travaillais de temps en temps, t'es indépendant, mais tu travailles de temps en temps pour des propriétés Webedia aussi. Moi,
non.
Ah non, c'est pas le cas, pardon, j'ai cru que tu m'avais dit que...
Non, j'ai...
Ah pardon, non, mais tu disais
une fois pour jeuxvideo.com, mais ça s'est jamais fait, non.
D'accord.
Non.
Bon, d'accord. Bah, comme ça, on est tous les deux complètement extérieurs à ce problème. Mais moi, en fait, excuse-moi, hein, j'avais mal compris.
Non, mais pas de souci.
Pendant mon époque chez Blizzard, quand je travaillais chez eux, j'ai vu vraiment la montée en puissance de ce qu'on appelle désormais les influenceurs, qui sont en gros les YouTubers, hein, et qui sont effectivement, qui donnent accès à un public énorme, mais vous vous imaginez pas du poids qu'ont ces YouTubers dans le domaine du jeu vidéo, parce qu'ils ont des chiffres qu'ils peuvent mettre en avant et que les gens qui travaillent avec eux peuvent mettre sous le nez de leur boss, là je parle des sociétés de jeux vidéo, en général, et tu peux dire, voilà, moi j'ai payé tant pour que tel YouTuber me fasse telle vidéo, ça nous a fait 500 000 vues, 1 million de vues, machin, c'est énorme, et ça coûte beaucoup moins cher que de faire du marketing classique, c'est-à-dire de mettre des bannières de pub sur un site de jeu. Et ce qui me dérange beaucoup, c'est que, comme tu le précisais, il y a énormément d'éditeurs qui n'exigent pas le fait que ça soit dit dans leurs vidéos. Alors, il y a des éditeurs qui le font, il y a des éditeurs qui le font pas. Chez Blizzard, on avait travaillé avec certains d'entre eux, et nous, d'une manière générale, enfin, de mon expérience, on était quand même hyper clean avec ça. Il y avait, c'est tout con, hein, mais c'est présenté par Blizzard ou en partenariat avec machin. Généralement, ça se fait comme ça. Mais très souvent, c'est pas le cas. Et pour moi, c'est... enfin. Il y a toute une question qui se pose. D'une part, est-ce que c'est éthique? D'autre part, même, est-ce que c'est légal? Parce que normalement, quand tu es journaliste, il faut que tu dises quand tu es payé pour parler d'un produit. Normalement, il faut même, enfin, dans un monde idéal, il faudrait même que tu dises quand tu as eu un produit gratuitement. Et la plupart des sites aujourd'hui précisent le test a été réalisé sur un jeu fourni par le développeur. Voilà, c'est rien du tout, ça change pas la nature du truc, c'est comme ça que ça fonctionne, mais il faut le préciser. Et les YouTubers, souvent, se considèrent, eux, non pas comme des journalistes, mais comme des entertainers, et donc estiment qu'il n'est pas nécessaire de faire la précision. Ce qui est, alors moi je suis pas juriste, je suis pas avocat, donc je sais pas exactement quelle est la nature des YouTubers, mais d'un point de vue strictement moral, d'instinct, ça me semble, parce ils influencent énormément les décisions d'achat des gens qui les regardent. Et à partir du moment où ils influencent la décision d'achat, d'ailleurs on les appelle les influenceurs, hein, ça veut bien dire qu'ils ont une influence. À mon sens, il faudrait que les gens qui voient leurs vidéos, surtout que c'est des gens très jeunes, vraiment le public, moi j'étais au Cyprien Gaming Show l'année dernière, et c'était, la moyenne d'âge c'était, je sais pas, 10-11 ans quoi. Mais la moyenne d'âge, vraiment, il y avait des enfants de 8 ans qui étaient fous devant Cyprien, il y avait une gamine qui était assise à côté de moi, elle avait 13 ans, t'avais l'impression qu'elle était à un concert de, j'allais dire des Beatles, mais ça serait plutôt des boys bands quoi, c'est vraiment des nouveaux boys bands, c'est incroyable. Et donc, ils ont une influence. Et à mon sens, pour ça, il faudrait que les choses soient dites un petit peu plus clairement. Et c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire bonjour mesdames et messieurs, nous avons été payés pour faire cette vidéo. Non, c'est juste en partenariat avec tel éditeur quand ils travaillent avec, je sais pas, Ubisoft, EA, etc. Je crois pas qu'ils le fassent à chaque fois. Et c'est un petit peu dommage. Moi, je trouve ça un petit peu dommage, voire même plus que dommage. D'autant plus que il est de bon ton de critiquer et de cracher sur ces jeunes gens. Et moi, je trouve que c'est complètement injustifié, parce que c'est des gens qui travaillent énormément, qui sont vachement talentueux, mine de rien, parce que Squeezie, oui, moi c'est pas mon truc du tout, je veux dire, on peut dire des entertainers, on peut dire c'est des clowns finalement, et c'est des amuseurs publics, mais Squeezie, il bosse comme un fou, Cyprien, il a décidé de quitter la télévision à un moment où il n'était pas du tout sûr que YouTube fonctionne. Il est revenu vers YouTube, il a pris le train en retard et il est monté là où on sait qu'il est monté. C'est des gens qui bossent vachement bien. Mais de ce point de vue-là, moi, ça me gêne un peu. Mixicom, c'est une boîte de production qui, effectivement, enfin, tu le précisais, ils se font payer pour produire une partie de leurs vidéos. Je ne sais pas si c'est toutes les vidéos, mais en tout cas, il y en a une bonne partie et on ne le sait pas. Donc, moi, je trouve ça dommage. C'est dommage, quoi. Voilà. Je finis mon laïus.
Ouais, je te rejoins pas mal. J'ai eu une discussion par rapport à tout ça il n'y a pas longtemps et moi, je trouve qu'il y a quand même un intérêt à leurs vidéos dans le sens où si tu les prends comme des pubs, c'est quand même des pubs plus intéressantes que les pubs qu'on peut avoir à la télé. Si tu regardes pour le grand public, parce que c'est quand même, voilà, c'est des gens qui, comme tu disais, quoi, qui touchent un public très important et qui touchent le grand public. Et finalement, je trouve ça assez simple dans le sens où ça permet au grand public d'avoir ce qui s'apparente à une pub, mais beaucoup plus abouti qu'une pub télé, où il va avoir une vraie idée du jeu, à quoi ressemble le jeu. Maintenant, le problème, effectivement, c'est que ces gens-là ne sont pas conscients que ce sont des pubs.
Mmh. Ouais, et, non, c'est sûr.
C'est aussi dans l'histoire, quoi.
Il y a une vidéo, je suis allé regarder, j'y vais pas souvent, mais je suis allé regarder sur la chaîne de Cyprien Gaming, là, il y a une vidéo sur Mario Maker, dont on va parler dans quelques instants, où il a Miyamoto qui essaye un niveau qu'ils ont fait eux-mêmes. Enfin, c'est vraiment, là, pour le coup, c'est marrant, c'est intéressant. Pardon, c'est... effectivement, si tu sais exactement la nature du truc, mais je pense aussi qu'il y a un... Il y a peut-être, ça s'adresse à un public qui accepterait moins ce genre de choses. Moi, j'ai confiance, oui, voilà, en l'humanité. Ouais. Je me dis, il suffit de dire en partenariat avec truc. Bon, là, sur Nintendo, c'est évident, il y a Miyamoto qui est là, donc à la limite, c'est clair. Mais,
mais c'est ça. C'est-à-dire que, comme tu dis, c'est beaucoup des enfants et je pense que tout le succès de ces youtubeurs-là dépend vachement du fait que, ces enfants pensent qu'il y a une certaine proximité avec eux, pensent que voilà, ce sont des gens qui font juste ça dans leur appart et que c'est pour ça qu'ils les aiment aussi et c'est pour ça qu'ils veulent pas leur dire que bah non, en fait on travaille pour les éditeurs, quoi.
Ouais, moi je crois que c'est une fausse idée. Je crois que s'ils le disaient, c'est genre tu tires le sparadrap, ça fait mal un coup et puis après voilà, les gens vont pas arrêter d'aller regarder Cyprien. Enfin, je veux dire, c'est pas des hardcore gamers qui regardent je sais pas Ken Bogard et Mr. V, quoi. C'est pas des types, ouais, qui vont dire ah tu nous as trahis, je pensais que t'étais authentique, en fait t'es un vendu. Tu vois, c'est des...
Je suis pas sûr. Ouais, c'est-à-dire que je pense que la problématique est totalement différente que les accusations de corruption qu'il peut y avoir dans la presse, par exemple. Mais que c'est plus une question de proximité, quoi. C'est juste que le public va se rendre compte qu'en fait, bah, il est pas si proche d'eux, quoi.
Mmh. Peut-être, mais voilà. Ouais. Peut-être. Effectivement, c'est un grand débat. Moi, je crois que, à vrai dire, la grande question, encore plus que tout ça, c'est la question de la légalité de ces pratiques. Et je pense qu'à un moment, il va y avoir la DGCCRF qui va s'y intéresser. Et ça va faire ça. On va en parler dans la presse généraliste. Et ça va être, en plus, la presse généraliste qui aime bien détester les YouTubers qui leur prennent leurs spectateurs et leurs lecteurs. Donc, ça va être les YouTubers fraudeurs. Enfin, je vous garantis que ça va arriver à un moment. Et bon. On verra. Mais enfin, moi, je pense qu'à un moment, la question va se poser.
Je crois que ça commence. Je crois que c'est au Royaume-Uni, il n'y a pas longtemps, où ils commencent parce que le problème étant que légalement, si quelque chose est une publicité, ça doit être clair pour le spectateur que c'est une publicité. Et si c'est payé par l'éditeur, techniquement, c'est une publicité, donc ça doit être clair à ce niveau-là.
Ouais, il y a toute une question de est-ce que ça l'éditeur ou le producteur du produit influence l'éditorial ou pas, est-ce que il est libre de dire ce qu'il veut, mais en même temps s'il est payé forcément il va pas dire que c'est de la merde, enfin.
Ouais, voilà. Bon. Non, je pense que les éditeurs sont assez cool là-dessus, mais je pense que forcément, Cyprien, il est payé par l'éditeur, il va forcément dire du bien. Enfin, il y a pas une vidéo de Cyprien Gaming où il dit du mal d'un jeu. Enfin, j'ai pas regardé toutes les vidéos, mais j'imagine qu'il y en a pas une où il dit du mal d'un jeu, quoi.
Non, il y a toujours la défense de se dire, si c'est pas bien, j'en parle pas. Tu vois, si c'est pas un jeu que j'aime bien, j'en parle pas. Mais en même temps, moi j'ai vu des jeux, certaines vidéos où ils parlaient d'un free-to-play d'un certain éditeur qui était vraiment franchement un peu pourri. Et comme par hasard, sur la vidéo suivante, ils parlaient du gros jeu de l'éditeur qui sortait au même moment. Tu sens le deal où l'éditeur lui dit on te paye bien pour telle vidéo, mais du même coup, tu nous fais une autre vidéo sur tel free-to-play un peu pourri, comme ça t'en parles quoi. Donc voilà, c'est pour ça que, bref, vous aurez compris le message, je pense qu'il est important qu'on sache de quoi il s'agit. Petite news en passant comme ça, un petit peu liée au monde du jeu vidéo, c'est que Micromania va lancer une nouvelle chaîne de magasins, je me souviens plus du nom de la chaîne, Zing, voilà, qui est une chaîne qui va vendre des produits de pop culture, de jeux vidéo et tout ça. On pense un petit peu à Hot Topic aux États-Unis pour ceux qui connaissent. C'est intéressant parce que Micromania, entre parenthèses, filière de GameStop dans le reste du monde, est en train d'essayer de chercher d'autres relais de croissance parce qu'on sait que le jeu vidéo se vend de moins en moins et je trouve que c'est pas bête du tout de leur part d'essayer de s'immerger comme ça et de s'immiscer dans la culture geek un petit peu plus large que le jeu vidéo. Moi, je me vois tout à fait aller dans une boutique merchandising de culture geek et acheter un t-shirt, un t-shirt Firefly ou un t-shirt Deus Ex, ou je pense à Deus Ex parce qu'on va en parler tout de suite, ce genre de truc, ou des mugs Marvel ou je sais pas, ce genre de truc. Donc je trouve ça pas bête de leur part quoi.
C'est ça me fait penser à GameStop avait racheté il y a pas longtemps ThinkGeek et qui est visiblement une chaîne similaire aux États-Unis, donc je pense que c'est vraiment
hyper important. ThinkGeek c'est un site web en fait.
Ouais, exactement, un site web, mais du coup ils vont vendre aussi dans leur magasin. Enfin bref, je pense que ils sont vraiment dans une stratégie de diversifier leur activité tout en restant s'adressant à la même clientèle quoi.
Non, tout à fait. Et d'ailleurs,
c'est logique.
Il y a fort à parier qu'on retrouve des produits ThinkGeek dans les boutiques Zing de Micromania. ThinkGeek étant vraiment un des sites où les gens vont pour trouver des produits geek cool. Donc c'est franchement une bonne nouvelle quoi pour les geeks en France. Bref, on parlait de pratiques un petit peu douteuses. Il y a une campagne de précommande sur Deus Ex Mankind Divided qui a fait vous appréciez l'accent francophone hein, quand je dis Deus Ex Mankind Divided. Non, je vais dire à l'américaine. Deus Ex Mankind Divided. C'est mieux. Donc, une campagne de précommande qui a fait un petit peu lever quelques sourcils. Il sort le 23 février et la campagne de précommande est une campagne où on atteint, en fonction du nombre de personnes qui ont précommandé, différents niveaux de bonus. Alors, il y a le premier niveau où on peut choisir, tous ceux qui ont précommandé peuvent choisir des bonus en jeu, genre des augmentations pour le personnage. Niveau 2, il y a un artbook numérique ou un extrait de bande-son. Niveau 3, on peut avoir un comic book ou une nouvelle. Et niveau 4, les gens qui ont précommandé obtiennent l'accès au jeu 4 jours plus tôt que le jour de la sortie. Et c'est un petit peu une sorte de mélange d'influence et de une sorte de Kickstarter, parce que du coup ils se disent il y a plein de gens qui vont vouloir précommander ensemble et donc ça va donner des bonus. Enfin, c'est une pratique hyper bizarre. Déjà, on sait à quel point dans toute l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, la plupart des conseils, c'est quand même précommandez pas, attendez de voir les reviews parce qu'on sait jamais ce qui va se passer. Et en plus, la précommande n'a aujourd'hui aucun sens parce que les stocks sont largement adaptés au nombre de joueurs. Vous pourrez de toute façon le trouver le premier jour, il n'y a aucun souci là-dessus. Et du coup... C'est un peu le truc qui me paraît le plus discutable dans cette histoire, c'est qu'en fait, c'est pas un des bonus qui vont être attribués si on atteint le truc, c'est qu'il est absolument garanti que on va atteindre le niveau 4 de cette précommande, de ce niveau, de ce truc, parce que vous pouvez évidemment imaginer que personne chez éditeur de Deus Ex.
Square Enix,
merci. Personne chez Square ne va avoir envie de dire au bout de 3 mois, ah bah merde, en fait on n'a pas atteint notre niveau 3, en fait il n'y a pas assez de monde qui a précommandé, donc parce qu'évidemment on n'a pas le chiffre qu'il faut atteindre pour décider qu'on ne sait pas combien de précommandes il faut atteindre pour décider qu'on a atteint tel ou tel niveau de récompense. Donc, et en plus, 4 jours avant pour les précommandes, ça permet d'étaler la charge des serveurs, enfin évidemment qu'on va l'atteindre. Donc ça pue l'idée qu'a eu un des chefs du marketing quelque part chez Square Enix, et personne n'a voulu lui dire que en fait ça posait... Parce qu'en plus, qui va voir ça et aller voir ses potes et leur dire « Oh putain, faut absolument que tu précommandes, parce que comme ça, on va tous les deux avoir un comic book au niveau 3 ».
Je pense que c'est leur but, quoi. Je pense que, ils espèrent que c'est ce qui va se passer.
Mais jamais de la vie, enfin.
Ouais, non,
enfin, je sais pas, c'est réaliste selon toi.
Non. Je pense que c'est voilà, c'est mecs qui ont tenté. Comme tu dis, il y a un mec qui a dû se dire « Oh, ça va être une bonne idée », et puis voilà. Mais...
Ouais.
Après, c'est pas, je trouve pas que c'est soit si scandaleux que ça. Le gros problème des histoires de précommande, c'est les exclusivités selon les chaînes de magasins. Moi, je trouve que c'est le truc le plus scandaleux parce que le mec qui veut vraiment tout avoir, bah, il est obligé de précommander 3 fois le jeu, quoi. Donc, c'est à ce niveau-là que
chiant,
je trouve...
Mais est-ce qu'il y a des gens vraiment qui commandent précommandent 3 fois le jeu? Enfin, personne ne le fait, quoi.
C'est juste sur le principe. C'est juste sur le principe que si t'es vraiment fan du jeu, que tu veux vraiment tout avoir, bah, c'est pas possible.
Je comprends. Ça, je comprends. Disons que je suis un petit peu moins... Parce que souvent, ces bonus-là, c'est vraiment pas grand-chose, quoi.
Ah oui, non, on est d'accord. Non, mais moi, je... Voilà, mais c'est juste que le principe, pour moi, est dégueulasse, quoi.
Bah, là, le principe me gêne un petit peu aussi parce que c'est présenté comme une campagne hyper... Enfin, oui, c'est une campagne marketing, mais c'est présenté... C'est pas que c'est présenté comme autre chose, je sais pas. Il y a quelque chose qui me gêne. C'est genre... Qui me gêne, non, on s'en fout, c'est pas hyper grave.
C'est ridicule,
que,
en fait.
Voilà, c'est un peu idiot. Et puis, c'est présenté comme, allez, tous ensemble, on va travailler à débloquer le 4e niveau de récompense. Alors qu'en fait, dans la réalité, évidemment qu'il va être atteint. Voilà, il y a une sorte de mensonge quelque part, parce que on vous fait croire qu'il y a une maigre possibilité que ce niveau de récompense ne soit pas atteint, alors qu'on sait bien qu'il va être atteint. Donc, je bouffe mon chapeau, quoi.
Non, mais c'est surtout que supposons qu'il soit pas atteint, ils peuvent pas venir dire bon bah notre jeu il intéresse pas grand monde, le niveau est pas atteint. Ils peuvent pas. Enfin voilà, c'est se tirer une balle, quoi. Donc quoi qu'il arrive, ils vont dire que le truc est atteint. Et je pense qu'il y a même pas de niveau. Je pense que comme tu dis, dès le début, ils se sont dit ce sera atteint et puis voilà, quoi.
Ouais, exactement. Sinon on aurait des chiffres.
On aurait des chiffres sinon.
Donc voilà, c'est ça aussi qui est intéressant de noter. Et c'est pour ça aussi qu'on fait l'émission, hein, pour expliquer ce genre de choses pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Par contre, bonne nouvelle, il risque d'y avoir une rétrocompatibilité sur les jeux, sur Deus Ex, sur l'ancien, sur Xbox 360. Donc, si vous voulez la version 360 sur Xbox One. Donc, si vous voulez encore plus de Deus Ex, peut-être que c'est la Xbox One qu'il faudra récupérer si vous ne l'avez pas fait déjà le précédent. Apple TV, tiens, on va en parler un petit peu parce qu'on parle pas que de consoles de hardcore gamers, mais Apple qui se lance vraiment dans le marché du jeu vidéo sur télévision, c'est quand même un événement. Donc pour préciser, il y a l'Apple TV version 4 qui a été annoncée la semaine dernière, qui sera disponible en novembre, si je ne... non, en octobre, pardon, et qui a tout un tas de fonctionnalités dont que je vais pas détailler. Allez écouter le rendez-vous tech si vous voulez avoir tous les détails là-dessus. Mais et on a fait une grosse prévision sur la conférence Apple, et tout ce qu'on a dit, à cause des rumeurs qui étaient particulièrement présentes cette fois-ci, tout ce qu'on a dit était juste. Donc voilà, vous écoutez le rendez-vous tech, vous avez toutes les informations. Mais le truc qui nous intéresse ici, c'est le fait qu'ils font un petit push sur le jeu vidéo avec un App Store sur cet Apple TV. C'est la première fois qu'il y a un App Store sur un produit Apple. On sait qu'il y avait d'autres produits similaires comme les Android TV, les Google TV, etc., les Roku, enfin, il y en a plein. Mais là, Apple, évidemment, avec sa force de frappe, ça a un impact a priori qui sera plus important que tous les autres. Et donc, on a le premier vrai App Store important sur une petite box pas trop chère. Elle sera à 150, 200 euros à peu près quand elle sortira. Et on a une télécommande qui est assez petite et qui fait surtout du motion gaming. Et on a une manette qui est disponible en plus. Et évidemment, le plus important dans tout ça, c'est le fait qu'il y a des jeux qui ont été annoncés et qui vont être disponibles au moment de la sortie et plus tard. Et alors, tiens, je vais te poser la question directement. Est-ce que tu penses qu'une Apple TV peut devenir une vraie alternative de gaming, peut-être même aux gamers casual, comme on en parlait en début d'émission, voire aux gamers un petit peu plus sérieux, ou alors est-ce que c'est tellement accessoire que c'est pas une alternative crédible?
Non, je pense que c'est pas crédible. Je pense que étant donné les jeux qui ont été présentés, étant donné toutes les contraintes, la manette qui est en option, ça me paraît pas crédible.
Mais alors, il y a quand même un énorme public qui joue à Candy Crush, qui pourrait, a priori, être intéressé par l'idée de rentrer à la maison et de jouer à Candy Crush ou autre chose sur sa télé, non?
Non, parce que il restera sur son smartphone. Je pense que pour l'amener à sa télé, il faudrait vraiment un truc nouveau comme l'avait été la Wii à l'époque. Mais là, il y a vraiment rien dans cette idée. Il y a vraiment rien de convaincant. Enfin voilà, il leur faudrait vraiment des jeux forts qui motivent vraiment le l'achat, et j'en vois pas.
À vrai dire, la comparaison avec la Wii est d'autant plus apte qu'il semble avoir mis l'accent sur les party games, justement, et la manette, la télécommande est vraiment une manette de motion gaming, hein, comme l'était la Wiimote. Mais du coup, moi, ce que je dis régulièrement sur la Wii depuis longtemps, c'est que la Wii était achetée comme un jeu de société, finalement, par tout ce public très casual. Et du coup, ils l'ont sorti 2-3 fois comme un jeu de société, comme un Monopoly ou un Risk, et puis ils l'ont plus ressorti, parce que pour eux, c'était pas un jeu vidéo sur lequel on passait du temps. Donc, j'aurais tendance à penser comme toi que c'est peut-être un pari compliqué, mais en même temps, ce qui me laisse penser que c'est peut-être un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus présent dans le monde de ces gens-là, c'est que enfin, a priori, je me dis, ces gens-là jouent quand ils ont du temps à perdre. Donc, ils jouent dans les transports et voilà, et ou alors quand ils font la queue, je sais pas, dans de la boulangerie. Mais quand ils rentrent à la maison, ils ont autre chose à faire. Ils vont regarder la télé.
Voilà.
Ils ont donc, c'est pas pour à eux que ça s'adresse. Mais en même temps, c'est une Wii qui est toujours là parce que c'est une Wii qu'ils n'ont pas achetée que pour le jeu vidéo. C'est une Wii qu'ils ont achetée pour la télévision. Donc, elle est là. Il y a l'App Store qui est présent à chaque fois qu'ils allument leur machin. Et peut-être que il peut y avoir un jeu, justement, un petit party game. Ils ont présenté des trucs assez marrants, genre Beat Sports, qui est un jeu de sport rythmique, auquel on joue, genre, on joue au baseball en rythme avec la musique qui passe, qui est franchement assez marrant. Moi, c'est un truc, ça m'a surpris, je me suis surpris à vouloir l'essayer. Et quand on voit le nombre de jeux et la nature des jeux qui ont été présentés, je me demande si ça n'a pas un, s'il n'y a pas un public un peu intermédiaire, qui est un petit peu plus joueur que les gens qui ne jouent qu'à Candy Crush, et qui est peut-être un petit peu dans le domaine des joueurs un petit peu plus sérieux, qui vont pas être aussi intéressés par ces jeux-là. Je liste hein, les jeux qu'on connaît aujourd'hui. Skylanders, donc Supercharger, là on pense aux enfants. Ça peut intéresser les enfants de parents qui n'ont pas forcément envie d'acheter une console complète. Guitar Hero Live, qui est une version vraiment complète de Guitar Hero. Geometry Wars, Cross Heroes dans Multi, qui avait l'air super marrant. Galaxy on Fire, Beat Sports, dont je viens de parler. Transistor, il y a un autre jeu genre Shadowmatic, etc. Je me demande s'il n'y a pas un public intermédiaire. Je ne suis pas convaincu. Il y a même Disney Infinity qui va être disponible. Je me demande s'il n'y a pas un public intermédiaire, justement, parce que contrairement à la Wii, elle est toujours branchée, cette bestiole. Et on passe devant les jeux en permanence parce qu'on est sur l'interface de la télé, de l'Apple TV. Non, toujours pas convaincu.
Non, pas... non, je pense pas. je pense que le problème, bah, c'est que déjà la plupart de ces gens-là, la plupart des gens qui vont acheter l'Apple TV n'achèteront pas la manette.
Et, non, mais même avec la télécommande, ça marche.
Ouais,
parce
mais
que tous
vois,
les jeux doivent marcher avec les deux. Mais...
Ouais, mais le problème de la télécommande, c'est que en fait, pour résumer de manière très simpliste, la Wii, elle est démodée depuis 2010, quoi. Et je pense que dans la tête du grand public, le concept de la Wii Mode, c'est un truc démodé déjà. Donc je pense que voilà, tous ces gens-là ont déjà essayé Wii Sport et pour eux, tout ça, c'est déjà du passé. C'est pas le bon truc d'essayer de les remotiver avec ça, quoi.
D'accord. Bah écoute, oui, on verra. Il y a vraiment un gros point d'interrogation pour moi là-dessus. Toi, t'as l'air plus convaincu que ça marchera
et puis,
pas.
J'ajoute un point intéressant, c'est par exemple Skylander. Si Skylanders et Disney Infinity vont là-dessus, je pense que c'est clairement parce que ils espèrent, parce que leur gros problème, c'est que bah s'ils visent surtout les enfants et que pour eux la machine phare auparavant c'était la Wii, sauf que maintenant bah la Wii elle est un peu vieille et la Wii U elle marche pas, donc et la PS4 et la Xbox One c'est pas des consoles, enfin c'est des consoles qui sont pour l'instant trop chères pour avoir un gros public au niveau des enfants, donc ils ont un gros problème de support adapté pour leur public, et je pense que c'est pour ça qu'ils vont là-dessus en espérant que, en se disant peut-être que ça peut marcher auprès des enfants, mais dans le cas de Skylanders, ils avaient déjà essayé l'année dernière de sortir une version sur iPad de je sais plus comment il s'appelle, enfin l'épisode de l'année dernière de Skylanders, et ça a pas marché du tout, ça a été un bide monumental, quoi. Ils ont tenté le coup, ils ont sorti un jeu en version physique pour iPad avec un code de téléchargement, mais au même prix que les versions consoles, c'est-à-dire à 70€, avec les figurines, avec même une petite manette, un portail pour poser les figurines, enfin la totale.
Et
ça s'est totalement planté, quoi. Alors que leur démarche était un peu logique de se dire, voilà, on vise les enfants, finalement les enfants ils jouent plus console, il joue sur tablette, et ben on va sortir le jeu sur tablette, sauf que l'idée c'est que sortir un jeu à 70€ sur tablette ça marche pas, quoi.
Évidemment.
Enfin voilà, et je pense que là-dessus ce sera la même chose, à la limite ouais des petits jeux, des free to play, mais ça remplacera pas, ça peut pas remplacer les consoles, quoi, c'est impossible.
Mais je crois qu'il n'est pas question de remplacer les consoles, justement. Moi, ce dont je parlais, c'était d'un public intermédiaire.
Et
peut-être même, moi, je me demande s'il n'y a pas un marché intermédiaire qui n'est pas celui des jeux gratuits ou des jeux à 99 centimes qui ruinent les développeurs, mais qui est justement des jeux à 5, 7, 10€, qui se justifient, bah, parce que même si ça n'a aucun sens logique, émotionnellement, sur ta télé, tu veux peut-être bien dépenser 5€ pour un jeu, alors que sur son téléphone, ça te fait pleurer les yeux. Évidemment, les yeux, je sais pas ce qui pourrait pleurer d'autre, ça te fait pleurer du sang, c'est ce que je voulais dire. Les développeurs.
Ouais, je sais pas ce que tu veux dire, ouais.
Ouais.
Un peu comme Steam, en fait, mais pour le grand public, quoi.
Voilà, ouais.
Ouais, peut-être. J'y crois pas trop, mais oui, ça peut être la voie intéressante. Mais alors.
Non, c'est bon, ça me suffit. Je t'ai fait passer de aucune chance à oui, bon, peut-être. Non, ça, fait, moi, je suis convaincu, je suis content.
À ce niveau-là, la question est du coup plus générale, mais toi qui es plus, parce que du coup, moi, je suis pas très calé là-dedans, toi qui l'es plus, l'Apple TV, ça marche bien, les précédentes Apple TV ?
Bah, c'est pas vraiment comparable parce que les précédentes Apple TV n'avaient pas d'App Store. Donc, il n'y avait pas d'écosystème de développeurs, il n'y avait pas d'applications tierces ou très très peu. Il y en avait une poignée qui était approuvée par Apple et développée en partenariat. Là, ils ouvrent complètement le marché à n'importe quel développeur de la même manière que c'est le cas sur l'iPhone ou l'iPad. Ou... Donc, c'est pour ça que je suis pas convaincu que ça va marcher, mais je me pose la question, quoi.
Ce que je veux dire, c'est au-delà du jeu vidéo, juste l'Apple TV en elle-même. En fait, moi, j'ai du mal à penser que ça peut être un vrai sujet. Parce que pour que ça ait créé ce public intermédiaire, il faudrait que cette Apple TV ait un vrai succès comparable à l'iPhone, quoi.
Ouais,
je vais un peu loin en parlant de l'iPhone, mais quand même.
En fait, c'est très particulier parce qu'en France, on a un écosystème Internet qui est déjà très différent de celui qu'il y a aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a, comme tu le dis, toutes les boxes. Aux États-Unis, ils ont pas ça. Donc en fait, on a déjà nous nos boxes de streaming disponibles, enfin de streaming, pardon, nos boxes partout. Mais c'est un marché très fragmenté parce que t'as plusieurs opérateurs différents et aucun n'a vraiment réussi à développer un écosystème d'app et en plus elles sont pas hyper puissantes, etc. Aux États-Unis, l'Apple TV fonctionne assez bien, voire même très bien, et surtout, elle était très différente à l'époque parce qu'elle ne faisait que du streaming. C'était une sorte de Chromecast pour ceux qui connaissent ce petit appareil. Aujourd'hui, avec ce nouveau développement, d'une part, l'Apple TV fonctionnait très bien, comme je le disais, il y a plein de concurrents, il y a la Fire TV, il y a les, comme je le disais, les Google TV, etc. Mais l'Apple TV était l'un des principaux. Et donc, aux États-Unis, a priori, ça va fonctionner. Ce qui veut dire que l'écosystème d'app et de jeux, si ça fonctionne, va être... En tout cas, l'écosystème d'app, l'écosystème de jeux peut-être, mais moi, je pense que ça va marcher... Enfin, qu'il va y avoir des jeux parce que ils vont pas ignorer ce marché, les développeurs. Et du coup, ça va être tiré par les États-Unis et d'autres pays qui n'ont pas notre système, notre situation un petit peu bâtarde... en France avec les box, et du coup tous ces jeux-là et toutes ces applications seront aussi disponibles en France. Donc je pense qu'il y a un effet d'entraînement comme ça qui fera que l'Apple TV sera une option. Alors je prédis pas le succès interplanétaire, mais en tout cas je pense qu'il y aura plus de choses à se mettre sous la dent qu'avec d'autres box de ce type-là qu'on a vu avec des écosystèmes d'app qui étaient peut-être un petit peu moins dynamiques, on va dire. Bon, on verra. Réponse dans 6 mois, 1 an, pour voir si le succès a été au rendez-vous ou pas. Je voulais juste dire un tout petit mot sur les nouveaux iPhone 6S avec cette fonctionnalité de 3D Touch qui est qu'elle permet de d'appuyer plus ou moins fort sur l'écran. Il y a 3 niveaux de pression, en fait, le tap normal, une petite pression et puis une pression un petit peu plus forte, dont l'utilité est vraiment discutable, mais je pense que de l'avis de la plupart des gens qui ont réfléchi un petit peu, s'il y a une utilité qu'on pourra y trouver, c'est a priori dans les jeux pour avoir un mode d'interaction supplémentaire, parce que les jeux sont ceux qui souffrent le plus, à mon sens, de cette absence de d'interface sur le téléphone. Il n'y a qu'un écran avec le tap. Là, peut-être que le fait de pouvoir appuyer avec plus ou moins de force pourra donner un petit peu plus de profondeur au jeu. Là encore, c'est un grand point d'interrogation, hein. Je fais pas de prédiction dure. De prédiction ferme, mais je me dis peut-être que là, ça pourra servir un petit peu pour donner des jeux un petit peu plus complexes par cet intermédiaire du moyen de contrôle, quoi. Refermons cette page Apple iOS pour poser une question à Monsieur Le Maire, spécialiste des chiffres internationaux en France. Je me disais qu'il serait peut-être intéressant, à un moment on avait beaucoup moins de grosses news que quand on a commencé la journée aujourd'hui, mais tout de même faisons-le, de faire peut-être un petit bilan de 2015 et peut-être quelques pronostics sur la fin de l'année si c'est possible, mais comme c'est un secteur que tu suis beaucoup, est-ce qu'il y a des enseignements qu'on peut tirer ou des bilans qu'on peut tirer de ces 9 premiers mois ou de ces 8 premiers mois de l'année, des bonnes ou des mauvaises surprises, des choses que tu retiens et puis quelques trucs pour la suite?
Sur ces 8 premiers mois de l'année, on a eu 4 vrais gros succès qui ont été Batman Arkham Knight, ce qui était très prévisible. The Witcher 3, ce qui était assez prévisible aussi, même si c'est un peu plus, c'est peut-être le plus intéressant parce que les précédents étaient loin d'avoir aussi bien marché. Et ça marque vraiment le passage de la série dans la cour des grands.
J'ai l'impression qu'on attendait le succès, mais qu'ils ont poussé le succès encore plus loin que ce qu'on attendait, en fait.
Oui, alors, oui, ça dépend du point de vue. C'est-à-dire que moi, en fonction de la façon dont ils l'ont poussé, je m'attendais vraiment à un gros succès parce que voilà, c'était vraiment le délire open world ambitieux. C'est vraiment la série a passé un cap dans l'ambition et ça se répercute sur les ventes forcément. C'était assez risqué quand même hein, parce que enfin voilà, on le voit en ce moment avec le budget qui est révélé qui était assez conséquent mais ça a payé au final et je pense que là la série enfin le The Witcher 3 est parti pour atteindre les 10 millions d'ici quelques mois. Donc voilà, on a vraiment voilà The Witcher 3, Batman, qu'est-ce que j'oublie? Il y a Splatoon qui est pas aussi important, mais c'est un peu la vraie surprise de cette année, qui marche surtout au Japon, qui réalise des ventes impressionnantes au Japon.
Ils ont réussi à mettre le Japon au FPS, enfin au TPS, ce qui était
bien. Ouais, voilà, ouais. Enfin, faut savoir que Call of Duty marche très bien là-bas quand même. Enfin, beaucoup moins que chez nous, mais c'est quand même ça fait dans les 500 000 ventes à chaque épisode. Mais ouais, non, effectivement, c'est assez impressionnant. Là, il a dépassé les 700 000 ventes, ce qui pour un jeu Wii U est assez fou quand même. Bon, sinon, on a Mortal Kombat aussi qui a très bien marché, surtout aux États-Unis. Et puis là, tout récemment, on commence à avoir les premiers chiffres de Metal Gear Solid 5 qui forcément, aussi. Voilà, qui cartonne forcément. Donc bon, c'était pas, il y a pas non plus énormément de surprises. Hein, c'était quand même, mais enfin, de manière générale, je trouve que l'industrie est de plus en plus prévisible au niveau de ces gros jeux qui ont généralement un succès attendu. À moins d'une catastrophe, d'une catastrophe sur la qualité, mais ce qui n'a pas été le cas pour chacun des jeux que j'ai cités, c'est des jeux dont on peut s'attendre à avoir des grandes ventes parce que ça correspond à tout un tas de facteurs qui font que ça mène au succès, quoi.
Ouais, effectivement. Un mot sur les consoles. On sait que la PlayStation 4 devance la Xbox One de manière assez significative. L'écart se creuse, Microsoft se rattrape. On n'a pas les chiffres en même temps, donc on a que des estimations. Mais
on n'a pas les chiffres de Microsoft, quoi, parce que ils en sont encore à cumuler les chiffres de la Xbox 360 et de la Xbox One au niveau mondial. Mais même en cumulant Xbox 360 et Xbox One, c'est largement dévancé par les ventes de la PS4 seule. Donc, en fait, le problème, c'est que en Europe continentale, la Xbox One est vraiment morte, quoi. Que ce soit en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie.
Territoires qui étaient naturellement.
Voilà. Ouais. C'est-à-dire, c'est déjà des
japonophiles,
territoires.
Quoi. Donc,
ouais, mais même au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est déjà des territoires où la PS3 a toujours dominé la 360. Et donc maintenant l'écart est encore plus grand, quoi. La Xbox One vraiment là il y a pas longtemps il y avait le top 50 hebdomadaire allemand, il y avait je sais plus peut-être une vingtaine de jeux PS4 dans peut-être même une trentaine dans le top 50 et il y avait un jeu Xbox One, quoi.
D'accord. Je pense que vraiment il y a un terreau fertile historiquement à Sony. Moi je me sans doute de l'amour en tout cas en France qui est dû à l'amour moi je pense vraiment du Japon, des mangas, de l'animé qui a été très présent dans les années 90 qui a et de Nintendo, Sega, tout ça qui a orienté le public de joueurs sur la PlayStation 1. Et je me souviens que à l'époque de la PlayStation 2, bon, ça a été le succès qu'on sait, la PlayStation 3, qui était à un prix mais exorbitant, qui était ridicule, je me souviens qu'il y avait des gens vraiment pour justifier ce prix-là et aller dire que oui, mais tu comprends pas, il y a le Emotion Engine, le machin... Ah non, c'était la 2, le Emotion Engine, je sais même plus.
Ouais, le seul.
voilà. Non, et la 3, c'était le... Enfin bref, qui allait justifier le prix exorbitant à 600 euros de la 3 et qui disait, mais tu comprends pas, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Et donc je pense que au-delà de du lancement réussi pour Sony et du lancement raté pour Microsoft, il y a un amour de la PlayStation en France et quelque part en Europe, et puis en même temps une certaine pas défiance, mais un désintérêt pour ce qui fait la force de la Xbox traditionnellement aux États-Unis, qui est principalement les FPS popularisés par Halo et les jeux de sport. Faut pas oublier que les jeux de sport, c'était les jeux de sport américains, hein, le baseball, le tous les Madden, tout ça, qui étaient principalement sur Xbox. C'était la maison de ces jeux principales, même s'ils sortaient ailleurs. Donc le désintérêt là et l'amour de l'autre côté fait que le succès de Sony avec la PS4, en tout cas encore plus prononcé en Europe, est pas si surprenant. Mais bon.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les deux pays où Microsoft marche bien, c'est le Royaume-Uni et les États-Unis. Mmh. Et c'est les deux pays où la Xbox 360 est la console la plus vendue de la génération précédente. C'est-à-dire pas seulement devant la PS3, mais devant la Wii aussi. Et sur cette génération, du coup, Sony domine dans ces deux pays-là, mais l'écart est beaucoup plus serré qu'ailleurs, en particulier aux États-Unis, où voilà, c'est vraiment le seul territoire où la Xbox One a encore ses chances, c'est les États-Unis, quoi.
Et c'est marrant parce que ça explique un petit peu aussi cette défiance qu'on a vue, ou en tout cas cet excès de fierté et de confiance qu'on a vu à l'annonce de la Xbox One. On le comprend un petit peu mieux quand on sait à quel point la Xbox 360 était dominante dans leur territoire, hein, chez eux, à la maison. On a eu vraiment la reproduction presque exacte de ce qui s'était passé avec la PS3 du côté de Sony, qui était cet excès de confiance dû à un succès énorme local et mondial, et qui localement était évidemment, enfin bon, chez eux en même temps c'est toujours la même chose, Microsoft n'existe pas, mais on avait cet excès de confiance qui, pour la Xbox 360, se comprend encore mieux quand on voit à quel point elle était la génération précédente aux États-Unis. Chez eux, c'était incontournable, quoi. Ouais. Bref, des pronostics pour la fin d'année?
Alors à part tous les trucs habituels, ouais, les séries classiques, enfin Call of Duty, Assassin's Creed, même si c'est quand même assez intéressant ce sera quand même assez intéressant de voir si ça décline comme ça décline déjà sur les précédents épisodes, donc voir si ça se confirme.
Ouais, ça fait un ou deux ans qu'Activision n'annonce plus les chiffres de vente de Call of Duty, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais leurs annonces. En fait, quand vous entendez des chiffres un petit peu bizarres que vous avez jamais entendus avant, ça veut dire qu'ils veulent pas vous donner les chiffres de vente. Je crois que les derniers c'était genre la série Call of Duty dans son ensemble a atteint X milliards de chiffres d'affaires.
Ah non, c'était pire pour le lancement du dernier, le communiqué de presse habituel qui parle du chiffre d'affaires du jeu normalement sur les 24 premières heures. À la place, le communiqué de presse parlait du fait que c'était le lancement record pour un jeu sur Twitch. ça montre bien que
ils ça veulent va pas donner les directions.
Ouais, voilà. Et surtout que je pense que ça va s'aggraver là parce que malgré tout, Advanced Warfare avait eu des bonnes critiques pour un Call of Duty. Il y avait un côté c'est mieux que les précédents épisodes. Et je pense que là, Black Ops 3, ça va. C'est vraiment l'épisode classique qui arrive et je pense que là ça va commencer à pas mal plonger. Enfin pas mal plonger, ça va être encore un jeu qui va dépasser les 10 millions mais peut-être plus les 20 millions quoi.
Ouais, ben c'est ça, on les plaint pas non plus mais il y a cette, et puis il faut comprendre aussi que il y a cette sorte de prison du chiffre qu'on connaît bien avec Blizzard notamment, que moi je suis de près bien sûr avec les chiffres de nombre d'abonnés sur World of Warcraft. C'est que quand tu atteins des sommets incroyables, comme ça a été le cas avec World of Warcraft et comme ça a été le cas avec la série Call of Duty, après, à chaque fois que tu annonces un chiffre moins important, les gens soit ont l'impression, soit partent du principe que c'est raté. Alors que tu vends toujours des millions et des millions et que tu amasses des sommes invraisemblables, il y a cette sorte de préconception qui fait que les gens vont se dire ah ouais bah pff, ouais, c'est plus, alors qu'en fait c'est toujours des succès fous quoi, donc
non mais c'est surtout que ils sont à je sais plus 6 millions d'abonnés je crois, un truc comme ça au dernier compte
sur World of Warcraft, c'était 5,6
sur World of Warcraft,
je crois.
Voilà, et faut déjà faut savoir que c'est toujours un chiffre impressionnant, que c'est toujours de très loin le leader des jeux par abonnement payant. Et faut se rendre compte que le jeu, il va bientôt avoir 11 ans là.
Ouais, c'est ça.
Donc, mais donc c'est pareil
c'est
pour fou, quoi.
C'est pareil pour Call of Duty qui a été et qui reste une série à succès invraisemblable et qui aujourd'hui, même encore aujourd'hui, vend mais des millions et des millions de boîtes. Moi, c'est plus
après,
mon truc, mais
c'est-à-dire
bon,
que la différence, c'est que Call of Duty décline de jeu en jeu, alors que World of Warcraft, c'est toujours le même jeu
ça
depuis 11
yo-yo,
ans.
C'est yo-yo, oui,
voilà,
oui, avec
c'est-à-dire
les
que
extensions.
Le jour où ils annoncent World of Warcraft 2, bah, ce sera un truc de malade, quoi.
Oui, ça, je crois pas que ça va arriver, hein, mais.
Oui, non, mais je sais pas, peut-être, on sait jamais, tu vois.
Ouais, ouais, ouais. Tu veux dire que c'est, ouais, tout à fait.
C'est toujours une licence qui force le respect, c'est ça que je veux dire. Alors que Call of Duty, c'est quand même vraiment la licence qui décline. Plus tandis que World of Warcraft, bah c'est plus le jeu qui décline, quoi. Ce qui est normal. Le jeu est quand même vachement vieux.
Oui, on pourrait arguer du fait qu'avec les extensions, à chaque fois c'est un renouvellement du jeu, et même si on garde le même personnage, c'est compliqué.
Ouais, voilà,
ces deux systèmes.
Tu gardes le même personnage, tu gardes quand même la même base, le même gameplay, les mêmes graphismes. Tout ça a pas des masses évolué depuis 2004, quoi.
Ouais, c'est vrai que s'il y avait un World of Warcraft 2, ce qui à mon avis n'arrivera jamais, mais s'il y en avait un, il y a plein de gens qui se disaient ouais bon, World of Warcraft c'est fini, enfin ça m'intéresse plus parce que c'est le même jeu, qui se dirait ah le deuxième peut-être qu'on va regarder ce qu'ils ont fait de différent, quoi. Mais, bon, ouais, d'autres pronostics où on conclut sur
non
cette
bah après
partie
c'est ouais non sinon il y a les quelques gros jeux un peu moins qu'on est un peu moins habitué à voir. Je pense que Star Wars Battlefront va faire un tabac. Je pense que ouais voilà, ça va surtout être lui le grand jeu de cette fin d'année. Puis à part ça,
Tomb Raider.
Alors Tomb Raider, ouais, ça va être très intéressant de voir parce que il a ce gros handicap d'être une exclue Xbox One, quoi. Et du coup ça va être très intéressant de voir comment il va réussir à s'en sortir malgré cet handicap là.
C'est sûr.
Moi, et Fallout, moi j'ai Fallout 4 qui est
Fallout. Tu le fais à la française là.
Non mais ouais, Fallout. En anglais, oui, Fallout 4 qui peut faire aussi un qui va
ouais,
faire des
qui peut être
chiffres.
Une bonne surprise, ouais. Effectivement. Ok, bon bah écoute, merci bien pour ces petits bilans, Mister Le Maire. On va continuer avec nos news un petit peu plus rapides et quelques impressions sur des jeux que j'ai essayés, notamment depuis la dernière fois j'ai essayé MGS5, Metal Gear Solid 5, et je suis désolé de dire à la faction Punish Snake du rendez-vous jeu que ça m'a toujours pas plu. Je sais pas quoi dire, c'est pas... En fait, j'en parlais dans l'équivalent anglophone de cette émission qui s'appelle Pixels, que je fais en alternance avec le rendez-vous jeu. Je parlais un petit peu de ça, et il y a un des invités qui a dit quelque chose de très vrai, c'est qu'il y a un aspect un petit peu animé dans Metal Gear Solid qui fait cohabiter l'ambiance hyper sérieuse, enfin la guerre en Afghanistan dans les années 80... hyper sérieux avec des sujets hyper graves, etc. Et en même temps, un délire genre animé, complètement délirant, qui finalement ne me sort du truc, quoi. Et donc, je crois que c'est pour ça que au final, j'accroche pas.
Il me semblait avoir entendu dans une de tes précédentes émissions que tu avais arrêté Metal Gear Solid 2.
C'est ça, série. Ouais. Et j'avais pas réussi à me replonger dedans, j'avais même pas essayé les jeux. Et là, j'ai essayé, j'ai joué pas mal, quoi. J'ai joué, je sais pas, 7-8 heures. Et pff, ça prend pas, quoi.
Mais au niveau du gameplay aussi ?
Bah, si, en fait, bon, il y a aussi ça comme problème, c'est que le gameplay infiltration, c'est bien, je vois les qualités, j'aime bien, j'en fais une heure, deux heures. Et puis au bout d'un moment, ça me fait chier. Mais je reconnais que c'est hyper bien fait, hein. Mais je crois que c'est une combinaison du fait que le gameplay, tu vois, rester pendant 20 minutes à encercler la zone et puis voir qui est où et à quel moment. Et en fait, il y a un truc aussi qui joue pas en ma faveur, et je sais que ça vient de moi, c'est que j'ai envie de faire le truc en infiltration totale. Et que j'ai pas envie, quand je me fais repérer, tu vois, à la limite, je tire sur un, mais s'il y a une vraie alerte qui est donnée, je me dis, putain, merde, je recommence. Parce que je veux le faire vraiment en infiltration, parce que Metal Gear, l'intérêt du truc, c'est de l'infiltration. Et peut-être qu'il faudrait que je dépasse ce blocage, en fait, qui est un petit peu ridicule, de se dire, bon, allez, même si je dois tuer un ou deux ennemis, c'est pas la fin du monde, je continue la mission. Mais moi, je me dis, si c'est pour faire un truc, y aller à la sauvage, autant jouer à autre chose qu'à Metal Gear. Donc, il y a un petit peu ce... Enfin, tous ces éléments, quoi, qui se réunissent pour...
Alors moi je vais dire quelque chose. Je n'ai pas encore joué à Metal Gear Solid 5, mais je pense que moi avant de découvrir cette série, j'avais un blocage par rapport à cette série parce que le gameplay ne m'attirait vraiment pas, parce que le délire infiltration c'est vraiment pas mon truc. Et finalement je me suis lancé dedans et je suis devenu assez fan de la série. Et J'ai Metal Gear Solid 2 que j'ai fait en enchaînant direct après le 1 m'avait beaucoup déçu sur la première fois où j'y ai joué, un peu pour les mêmes raisons que tu avais évoquées la dernière fois, et par contre c'est pour ça que j'insiste là-dessus, le 3 je considère que Metal Gear Solid 3 est un des meilleurs jeux de l'histoire, quoi. Et je pense que vraiment c'est je trouve ça dommage que tu te sois lancé dans Metal Gear Solid 5 sans avoir fait au minimum le 3 qui est nécessaire pour découvrir le personnage de Big Boss qui est celui de Metal Gear Solid 5, puisque c'est pas le même personnage que les deux premiers Metal Gear Solid. Et vraiment le 3 au niveau de l'histoire a quelque chose de très intéressant, enfin il est vraiment très bien construit pour exploiter ce personnage-là, et puis aussi pour le côté que t'évoques sur la façon d'appréhender Metal Gear Solid entre l'infiltration et y aller un peu plus à la bourrin, c'est-à-dire que Metal Gear Solid 3 c'est un jeu qui en fait sur la version HD pour avoir la platine il faut tuer personne. C'est un peu l'objectif suprême du jeu, c'est de réussir à le finir sans tuer la moindre personne, quoi. Et c'est très intéressant dans cet aspect-là, quoi.
Je pense que il y a une bonne partie des auditeurs de l'émission qui, en t'entendant parler de Metal Gear Solid 3, sont dit « Ah, mais oui! Mais enfin, quelqu'un qui prêche la bonne parole, Patrick, écoute Oscar, il a raison !» Et j'ai regardé le remix HD. Il est quand même encore un petit peu cher, et puis il faut relancer la PlayStation 3, etc. Je me dis, c'est un petit peu... Et il y a tellement de bons jeux qui arrivent... peut-être que je le ferai à un moment. Il y a tellement de gens qui me disent, mais MGS3, c'est le summum de la série. À un moment, il faudra peut-être que je m'y mette. Je le ressortirai peut-être un jour.
Pour moi, c'est le summum. Enfin, j'ai pas encore fait Metal Gear Solid 5, hein, mais pour moi, c'est vraiment, c'est un ton supérieur aux autres. Et puis, c'est tout ce délire-là. Tu vois. Le côté qui logiquement et continue dans Metal Gear Solid 5, c'est le côté de découvrir comment un personnage, parce que Big Boss c'est le méchant dans l'histoire, c'est le méchant des tout premiers Metal Gear.
Oui, bien sûr.
Et c'est un peu de raconter c'est-à-dire qu'au début de Metal Gear Solid 3, c'est encore le héros, quoi, le héros américain. Et c'est de raconter un peu comment ce mec-là est passé du héros américain à un terroriste, quoi.
Ouais, je comprends. En même temps, tu sais, il y a des trucs... Enfin, dans la Mother Base, tu vas, tu tapes tes soldats, ils sont là, « Thank you, boss !» Enfin, je sais pas. Et puis, il y a un autre truc aussi que j'évoque comme ça en passant. Le personnage de Quiet, la snipeuse qui nage sensuellement sous la pluie, qui est en bikini tout le temps alors qu'elle est en Afghanistan. Je sais qu'il y a une histoire qui justifie machin, mais enfin bon. Et d'ailleurs, entre parenthèses, si vous voulez voir un truc hilarant,
c'est un troll, quoi.
Mais tu vois, enfin, surtout dans Metal Gear, c'est les Japonais, je sais, les Japonais.
Pour moi, c'est vraiment le troll de Kojima par rapport à toutes les polémiques sur le sexisme, quoi.
Ouais, mais tu vois, justement, enfin, bon, si c'était un truc isolé encore, mais enfin, il y a un truc hyper marrant, partir sur la polémique en elle-même. Allez chercher, il y a une vidéo, en fait, où ils ont fait un swap de modèles, un échange de modèles entre Quiet et Ocelot. Et du coup, dans cette scène de la pluie, tu vois, au lieu que ce soit Quiet qui plonge sous la pluie et qui danse lascivement, c'est le modèle d'Ocelot. Donc tu vois Ocelot qui danse et qui se déhanche et qui joue à envoyer de la pluie sur Snake, c'est hilarant, c'est difficile de pas rire. Et c'est marrant parce que c'est à la fois marrant et puis en même temps ça montre le ridicule de la situation, enfin bref, c'est super drôle. Bon bref, on va pas faire tout l'épisode sur Metal Gear, malheureusement, bah je suis désolé, j'ai essayé, j'ai joué, il faudra peut-être que je fasse le 3 un jour, peut-être que je vais ressortir le 5 aussi, on verra. Par contre, un qui est un petit peu difficile à rattraper, c'est Mad Max, je l'ai chopé à 15€ ou 16€ sur, je crois que c'était Greenman Gaming ou CD Keys. Et je me suis dit, bon, pour 15€ quand même, je sais qu'il a pas des reviews super bonnes, mais pour 15€, est-ce que ça va valoir 15€? Et au final, c'est bizarre parce que Mad Max, c'est un jeu... Alors, évidemment, je sais que ça n'a rien à voir avec le film, mais ça nous l'a remis sur le radar et on pouvait en attendre un petit peu quelque chose, surtout que c'est Avalanche Studios qui l'a fait et qu'ils savent faire les jeux open world. Et il est hyper compétent en tout. Il fait tout bien, mais il n'y a rien d'excitant, en fait. Il n'y a rien où tu te dis « Ah ouais, ça, j'ai envie de continuer à jouer. Ça, c'est un moment sympa. Ça, c'est une activité marrante. » Il tombe à plat. Il n'est pas mauvais. On ne peut pas dire objectivement qu'il est mauvais, mais il mérite ses reviews tièdes, quoi. Et je me dis que même pour une 15€, ça ne vaut pas vraiment le coup parce qu'il n'y a aucun moment où vous allez vous dire « Là, je m'amuse bien. Là, ça vaut le coup. » Donc, voilà, c'est triste, mais 15€, même pour... Enfin, c'est terrible, quoi. Je me dis, Mad Max, c'est... Mais non. C'est... Il y a surtout maintenant qu'il y a plein de jeux cool qui arrivent. Donc, voilà. Mario Maker, si vous avez une Wii U, franchement, hyper sympa. Et on parlait de game design, ou je sais plus si on en parlait, mais peut-être sur Twitter. Mais c'est une leçon de game design, mais invraisemblable. Comment vous amener à jouer au truc et à construire un niveau, les 5 premières minutes ou les 10 premières minutes du jeu, mais enfin là tu te rends compte qu'il y a des sociétés qui savent faire des jeux vidéo et des sociétés qui savent pas, quoi. C'est la maîtrise du game design de l'introduction de Mario Maker, c'est une leçon pour n'importe quel développeur au monde, quoi. Nintendo dans toute sa gloire. Et le jeu est sympa et franchement je me surprends, moi je pensais pas que je ferais des niveaux, mais je me surprends à me mettre à faire des niveaux comme ça, c'est marrant, tous les jours t'as des éléments en plus qui arrivent. C'est pas le grand jeu du siècle, hein, parce que les niveaux tournent un petit peu en rond relativement vite, les niveaux auxquels tu peux jouer. Il y a des trucs marrants, c'est plus des puzzles en fait, c'est marrant de voir comment les mécaniques de jeu sont transformées en puzzles de jeu. Et à comprendre comment ça marche pour que tu réussisses à faire le truc. Enfin bref, un bon petit jeu. Ça vaut pas la peine d'acheter une Wii U pour ça. Mais si vous en avez déjà une, peut-être que c'est intéressant à choper pour aller 35-40€. Moi, je l'ai chopé à moins de 40€ sur. Il était sur Amazon et sur la Fnac à ces prix-là. Donc ça peut être une bonne expérience si vous aimez bien Mario et si vous dites que ça pourrait vous plaire. Ensuite Forza 6. Alors les jeux de sport sont pas, enfin de course sont plus aussi populaires qu'ils étaient à l'époque de Gran Turismo 1, 2 voire même jusqu'au 5. Le 6 d'ailleurs s'est vendu à je sais plus 2 ou 3 millions d'exemplaires alors que le précédent s'était vendu à 10, donc mais pour les gens qui aiment Forza, il est super beau. Et entre parenthèses, si vous aimez les jeux de sport, de course, il y a Need for Speed qui est en train de... Vous pouvez signer pour la bêta fermée jusqu'au 25 septembre. Il y aura une bêta fermée sur console. Donc allez sur les sites de Need for Speed et inscrivez-vous sur la bêta si ça vous intéresse. Tu m'interromps hein, quand tu as des éléments.
Oui, non, bah pour l'instant rien.
Le dernier combattant de Street Fighter V a été présenté, c'est Rashid. Et moi je l'ai trouvé pas mal, j'ai trouvé sympa, mais il y a des gens qui ont dit que il était, enfin il y a des j'ai des amis arabes qui vivent dans, enfin des vrais arabes entre guillemets qui vivent dans des pays arabes et tout, qui m'ont dit ouais c'est un petit peu enfin c'était pas forcément la peine de le mettre avec la petite barbe pointue et la serviette sur la tête, bonjour les stéréotypes. En même temps, Street Fighter, c'est le truc des stéréotypes, mais je comprends. C'est sûr que quand on voit les nanas en maillot de bain et les comment dire, enfin ils sont tous les persos sont hyper limite offensive comme on dit en anglais. Rachid, il m'a moins gêné, mais je serais curieux de savoir si si vous êtes d'origine moyen-orientale ou si vous avez une certaine affinité avec la culture les cultures arabes, si ça vous a gêné ou pas. Venez nous dire en commentaire dans les notes de l'émission sur frenchspin.fr. Je serais curieux de savoir parce que moi généralement je suis assez sensible à ce genre de choses justement et Rachid, je me dis bon, ça c'est un petit peu stéréotypique effectivement, mais il a l'air hyper badass quoi, donc je suis curieux.
Comme tu dis, c'est un peu le fond de commerce de Street Fighter, enfin, et puis même des jeux de combat en général, les stéréotypes quoi. Dès qu'on choisit un combattant en fonction de sa nationalité, il va y avoir plein de stéréotypes de son pays.
Ouais. Donc, je crois que ce qui les gênait, c'était le stéréotype du moi les gens avec qui j'ai discuté qui sont en particulier j'ai un ami jordanien qui vit aux Émirats Arabes Unis et il me disait ouais enfin la barbe pointue ça fait un petit peu limite Aladdin le méchant d'Aladdin tu vois.
C'était non mais ça qui le... c'est-à-dire enfin ce
c'est jeu, l'aspect ce... méchant plus que l'aspect stéréotype qu'il a.
Ouais joué. Non mais je comprends très bien mais c'est surtout parce que si les personnages arabes dans plein de domaines notamment dans le cinéma sont très souvent stéréotypés comme ça mais si t'arrives à sortir de ça
dans le cas de
Street Fighter enfin c'est comme voilà le personnage russe c'est un gros balèze ouais. le mexicain c'est un catcheur masqué,
un luchador, ouais. Je crois que le truc effectivement, c'est qu'il a l'air méchant en fait. Je crois que c'est ça qui l'a dérangé, ouais. Et que du coup, ça fait genre machin arabe terroriste. Alors quand je l'ai pas vu, mais évidemment moi, je suis même si je viens du Liban, c'est pas un truc qui me concerne spécifiquement. Donc je suis curieux. Et puis spécifiquement sur Street Fighter, avec là le 5, j'en avais parlé, mais toutes les nanas sont en maillot de bain. Donc moi, cet aspect me gêne un petit peu plus. Je suis curieux de savoir ce que les premiers concernés en pensent, mais oui, Street Fighter, effectivement, le russe, il est là, Mother Russia, Red Cyclone, machin, c'est... Effectivement, je comprends, mais bon.
Ouais, voilà. En fait, non, mais je comprends aussi très bien le côté. Mais je te dis, je pense que c'est surtout parce que les personnages arabes sont très souvent stéréotypés dans plein de trucs.
Ouais,
et forcément, c'est fatigant à la longue, quoi. Mais dans le cadre de Street Fighter, je trouve ça logique, quoi.
Ouais, mais c'est ça. Comme je le dis souvent, en fait, pour les personnages féminins, ce qui me gêne, c'est que c'est pas qu'il y ait des personnages sexy, c'est que ils sont 80%, en particulier au Japon, 90% des persos sont toujours la nana en maillot de bain ou hyper sexy ou lascive ou machin. Et donc c'est pas qui en est, c'est que ça soit la majorité. Et peut-être que c'est ça qui les gêne, qui a gêné mes potes en fait, c'est que à chaque fois qu'il y a un arabe dans un jeu vidéo, c'est forcément le mec avec son je sais plus comment ça s'appelle le headdress, le truc sur la tête, c'est hyper. Et à chaque fois c'est ça. Et en même temps il me disait Shaheen dans Tekken, il le gênait moins. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il a moins cet aspect un petit peu je sors d'un film d'Aladin et je suis le méchant machin. Bon. Bref, c'est si vous avez un truc à dire là-dessus, n'hésitez pas à venir nous en toucher deux mots. Street Fighter. Non, StarCraft 2 Legacy of the Void sortira le 10 novembre si vous voulez voir la cinématique d'intro. On parlait de badass avec Rachid dans Street Fighter, niveau badass, la cinématique d'intro de Legacy of the Void, elle fait pas mal non plus. J'ai été comme d'habitude émerveillé par les cinématiques Blizzard. Donc il sortira le 10 novembre. Une petite baisse d'importance on sent sur le RTS hein, quand même. C'est plus autant une partie aussi importante du business de Blizzard, j'ai l'impression. Et puis surtout
le MOBA est passé par là quoi.
C'est ça ouais. Et puis même dans le monde le RTS a perdu de l'importance donc mais bon pour les fans de StarCraft 2 et il y en a, Legacy of the Void sera un événement ne serait-ce que pour la campagne solo qui risque d'être épique. Le TGS, le Tokyo Game Show, commence dans quelques jours à peine. On vous en fera un topo complet au prochain épisode, évidemment. Juste en passant rapidement, qu'en attendre ? Il y a un jeu secret qui va être présenté par Square Enix, donc un nouveau jeu, sans doute. Beaucoup d'infos sur Persona 5, du nouveau sur Secret of Mana, qui est une série légendaire également, qui devrait arriver au Tokyo Game Show. Un passage de The Last Guardian. Le Tokyo Game Show a plus du tout la même deuxième importance qu'il avait en fin des années 90, début 2000, mais ça reste un événement bien sûr important pour les fans de jeux japonais. Moi, je me souviens d'avoir écumé les couloirs du Tokyo Game Show quand j'habitais au Japon. C'était le rêve, c'était la Mecque, quoi. C'était incroyable. On en parlera effectivement au prochain épisode. D'autres choses à prédire sur le Tokyo Game Show, Oscar ?
C'est non, t'as assez bien résumé.
Très bien.
Ouais, c'est ça, on attend surtout Square Enix et Sony, quoi.
Ouais, exactement.
Et puis Persona.
Et Persona, ouais, qui est la série, à mon sens, dont parlait du Witcher, qui avait cette popularité latente et qui a été poussée avec le 3 des nouveaux niveaux de grandeur. Moi, je pense que à un autre niveau, Persona 5 risque d'avoir le même effet pour la série Persona, parce que avec le 4 et en particulier le 4 sur PSP, la série a connu une popularité. PSP. sur Vita, a gagné en popularité, et je crois qu'il y a ce mouvement, cette vague souterraine qui est prête à exploser avec le 5. Je pense que ça risque d'être un gros jeu. Entre parenthèses, on parle de cette semaine et de ce qui va arriver cette semaine. On ne peut pas ne pas évoquer Destiny avec The Taken King qui arrive et la confirmation des épées. On aura des épées comme arme lourde. Mais moi, je suis comme un fou. Ça arrive demain. Moi, je suis déjà prêt à downloader. J'ai déjà la manette en main et j'attends que ça commence. On a des démos qui arrivent pour les fans de jeux de sport. Il y a la démo FIFA qui est déjà disponible. Moi, c'est vraiment pas mon truc, hein. J'ai testé la démo FIFA. Je me suis dit, c'est quand même l'un des jeux les plus populaires au monde. Faut que je teste. Bah écoutez, j'ai trouvé que, j'ai fait la blague sur Twitter, j'ai trouvé que c'était hyper bien foutu quand même, c'est hyper réaliste, c'est exactement comme le vrai foot, c'est-à-dire que c'est aussi chiant. Donc chapeau FIFA, bien joué. Bon, je suis pas fan de foot évidemment, c'est pas à moi que ça s'adresse. Démo NBA Live qui arrive aussi le 15 septembre, donc demain. Quoi d'autre ? Il y a un trailer pour le film sur Grand Theft Auto de la BBC. Si vous voulez regarder ça, il y a il y a Daniel Radcliffe, donc Harry Potter, qui joue dedans, et c'est une sorte de documentaire, enfin de film de fiction pas réaliste mais historique sur l'histoire de Grand Theft Auto 3. Ça peut être assez intéressant.
Un peu comme The Social Network, quoi.
Voilà, c'est ça.
Facebook.
Sauf que c'est produit pour la télé, mais et enfin, Twitch a battu Dark Souls. Vous savez qu'il y a Twitch Plays Dark Souls. En 28 jours, ils ont battu le boss le plus fort de Dark Souls. Enfin, c'est incroyable, quoi. Twitch, avec ses commandes à moitié aléatoires. Bon, je sais qu'ils ont changé le mode de contrôle, mais ils ont fini le jeu. C'est quand même très, très fort. Je trouve que ça a le mérite d'être salué. Non, ça a le mérite d'exister et donc il faut le saluer plutôt. Bon, bah écoutez, on a fait un bon épisode bien touffu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et si vous voulez prolonger ce moment et que vous voulez découvrir plus d'informations palpitantes que nous fournit Oscar Lemaire au quotidien, Oscar, dis-nous et dis aux auditeurs comment ils peuvent en obtenir.
Alors j'écris surtout pour Gamekult, mais alors sur l'offre premium de Gamekult, donc il faut payer pour voir les articles.
C'est les comptes de Monsieur Le Maire tous les mois.
Voilà, les comptes de Monsieur Le Maire, puis quelques autres articles aussi.
Ouais. On sait, je fais pas de secret de mon amour pour Gamekult et de mon soutien au modèle payant, parce que je préfère les modèles payants à la pub. Donc voilà, moi j'encourage les gens à aller essayer. En plus, il y a essai gratuit. Vous pouvez essayer le modèle payant pendant quelques jours. Donc allez décortiquer pendant un mois. Allez lire tous les articles d'Oscar, comme ça vous en aurez eu pour votre argent gratuit, et puis vous pouvez vous désabonner après si ça vous plaît pas, donc il y a pas de souci.
Sachant que petit détail, je me permets de le préciser, donc l'abonnement est vous avez un mois gratuit, mais vous allez devoir renseigner
la carte de crédit, et puis il faut annuler, ouais.
Pour que ça fasse un renouvellement automatique, mais vous pouvez annuler immédiatement après et vous conservez quand même le mois gratuit. C'est pas on annule et ça s'arrête immédiatement. Yep. Donc vous pouvez faire ça si vous avez peur d'oublier d'annuler à la fin du mois, quoi.
Exactement. Donc c'est entre autres sur Gamekult, sur d'autres publications et sur Twitter.
Voilà.
Avec le pseudo, c'est Oscar.
Oscar Le Maire.
Oscar Le Maire, ok.
Tout attaché.
Oui, c'est ça. Voilà. En plus, je viens de le tweeter, donc. Très bien, merci Oscar d'avoir été avec nous. Pour ma part, je suis sur Facebook et sur Twitter, je suis NotePatrick. C'est très simple, c'est Patrick avec un note devant. Vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr et vous y retrouverez aussi d'autres émissions comme le Rendez-vous Tech, qui fait un petit peu le même modèle que le Rendez-vous Jeu, c'est-à-dire un résumé bimensuel de toute l'actu, mais cette fois pour l'actu tech, évidemment. Si vous voulez suivre un petit peu tout ça sans avoir à écumer tous les blocs de la Terre, vous pouvez aller écouter le Rendez-vous Tech. Et en ce moment, on a évidemment parlé beaucoup d'Apple, comme je le disais. Si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé, vous pouvez aller écouter les épisodes en question. Vous pouvez également laisser des commentaires sur les notes de l'épisode si vous le souhaitez. On a souvent des discussions animées et très civiles qui ont lieu sur le blog. Donc, merci à la communauté pour ça. Et puis on se retrouvera évidemment dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et comme je le disais, on parlera très certainement du Tokyo Game Show, entre autres. Merci à vous tous d'avoir écouté et rendez-vous dans 15 jours. Ciao à tous.
Ciao.